Nous discutons avec l'excellente analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Je souris parce que ça me fait rire. Justin Trudeau, il a dit qu'il faut continuer l'isolation et non l'isolement. Il faut isoler, faut isoler les murs de nos maisons.
Non, mais on peut s'isoler nous-mêmes, s'enrouler dans de l'isolant pour ne pas contaminer personne.
Faut continuer l'isolation. Ça maîtrise français comme ça. Donc, écoute, on en aurait jusqu'au mois de juillet.
Il est peut-être fatigué aussi. On jase, là. T'sais, lui aussi, il travaille 7 jours par semaine. Là.
Oui.
On peut être un petit peu généreux.
OK.
En temps normal, là.
Mais là, on en aurait jusqu'au mois de juillet. Comme
ben,
ça?
Écoute, je pense qu'il ne faut pas alarmer les gens, mais si on se demande est-ce que nos gouvernements sont prêts, pas prêts, ils savent-tu ce qu'ils font? C'est une histoire vraiment intéressante de notre ancien collègue du Journal de Montréal, Christopher Nardi, qui est au National Post aujourd'hui.
Okay.
Et ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un document du Centre des opérations du gouvernement. C'est ça, c'est l'espèce de cellule au gouvernement là, qui fait toute la planification pour les crises, les scénarios catastrophes, etc. C'est eux qui nous préparent pour le pire. Et dans une note de brefage, il est écrit que les mesures de distanciation sociale mises en place pourraient être les mesures actuelles pourraient être en place jusqu'en juillet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire que les
mesures de distanciation sociale vont être en place jusqu'en juillet? Est-ce que ça veut dire que la fermeture des frontières vont être jusqu'en juillet? Les quarantaines obligatoires? On ne le sait pas encore, mais ce qui est clair, c'est que le gouvernement, dans ses différents scénarios, évalue là, toutes les possibilités qu'on soit pris là-dedans pendant encore longtemps.
Ben écoute, je pense qu'il n'y a plus personne là, qui croit que ça va se terminer à Pâques. Là. Je pense que c'est clair. Ben,
mais je pense que les gens s'accrochent à un espoir. Moi, je reçois beaucoup, beaucoup... Chaque semaine amène son lot de courriels du public. Là. Je ne sais pas si c'est comment pour toi. La semaine dernière, c'était des questions sur le 2000 $. Là, cette semaine, la majorité des questions que je reçois, c'est sûr, on en a pour combien de temps de monde qui n'en peuvent plus d'être embarrés dans leur 3,5, là. Et la réalité, c'est que moi, je dirais aux gens là, de se préparer pour un long bout. Là. Déjà, vendredi dernier, le directeur adjoint de la santé publique, là, qui est plutôt factuel, là, disait nous avons beaucoup de projections sur pendant combien de temps est-ce que ça va durer. Mais la réalité, c'est que je peux vous dire que nous en avons pour encore plusieurs semaines ou mois.
Écoute, Emmanuel, comme disent les Anglais, « Hope for the best, prepare for the worst ».
Ben, exactement ça. T'sais, alors, je pense qu'il faut se faire... Il faut se faire à l'idée qu'on a à se développer une nouvelle réalité là et qu'on est collectivement loin d'être sorti de l'auberge. Puis d'ailleurs, qu'on voit les chiffres de contamination au Québec là, il faut pas être surpris là non plus.
Écoute, on est inégaux devant le confinement parce qu'il y a des gens qui ont des grandes maisons, qui ont une cour où ils peuvent sortir, profiter du soleil. Il y a des gens qui sont pognés, comme tu as dit, dans un 3,5. C'est pas les mêmes conditions. Hein.
Non, c'est pas les mêmes conditions. Il y a des gens qui ont un revenu.
Oui.
Ils ont des gens qui ont la paix d'esprit. Puis juste moi, je vois, nous, on est dans une grande maison dans les Laurentides depuis 2 semaines, depuis le tout début. Puis c'est le fait que les enfants peuvent aller jouer dehors,
ben, c'est ça.
Ils peuvent s'amuser, la neige va fondre. Ben c'est toute la différence comparée aux gens, en effet, qui sont confinés dans des tout petits appartements puis qui n'ont pas nécessairement les moyens non plus là d'avoir Netflix, des séries, des jeux, des ordis, des tablettes, qui n'ont pas eu le temps de lâcher des cahiers de coloriage, des sets de pinceaux et tout le reste là pour s'occuper, là, c'est sûr.
Écoute, jusqu'en juillet. Est-ce qu'il faut agir sur les taux d'intérêt des cartes de crédit? C'est ce que préconise Michel Gérard. Il aimerait que Justin Trudeau dise, écoute, les cartes de crédit, 10%, pas plus.
Mais il n'est pas le seul à préconiser ça. Hein. Je veux dire, le NPD au fédéral mène cette charge depuis le tout début. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent parce que la réalité, c'est que le gouvernement fait ce qu'il peut pour venir en aide aux gens. Là. Bon, la prestation de 2 000 $ va rentrer, mais on s'entend que pour beaucoup de monde, c'est pas assez pour couvrir leurs dépenses habituelles, etc. Les Canadiens, les Québécois sont déjà endettés jusqu'au cou. Il y a quelque chose d'immoral à un moment donné, là, je pense, on s'entend, là, à ce que toute la société au complet fait sa part, les banques font leur part pour les entreprises, etc. Puis le truc là où on s'accroche là, c'est les taux de carte de crédit entre 20 et 29 % là. Je veux dire, c'est absolument
c'est hallucinant là, 20-29 %, c'est incroyable.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a déjà plusieurs compagnies de cartes de crédit qui ont mis en place des mesures, là, donc un congé de paiement pour 2 mois, etc. Ce qu'on entend, nous, du fédéral, c'est qu'on essaie de négocier quelque chose avec les banques. Est-ce que c'est de mettre en place un congé de taux d'intérêt pour la durée du confinement, puis surtout une espèce de marge de crédit sans intérêt pour les gens pour une période d'un an, tu sais? C'est un des scénarios qui est évoqué dans le Toronto Star ce matin, mais c'est clair que le gouvernement devra agir là-dessus.
Mais si j'étais directeur d'une banque, là, je me dirais, là, pour mon image, je préfère moi-même prendre la décision avant d'être forcé par le gouvernement. Comme ça, je vais montrer que j'ai une certaine compassion, parce que s'ils attendent d'être forcés par le gouvernement, ils ont l'air d'une gang de sans-cœurs.
Oui, mais c'est la roue qui tourne par ailleurs de l'endettement, là. Tu sais, c'est comme la personne qui peut pas payer son loyer à son propriétaire qui a besoin du loyer pour payer l'hypothèque. Ben, les banques, c'est comme le dernier recours. Je pense qu'une partie du calcul aussi, c'est de s'assurer qu'il faut mettre en place des mécanismes pour que le gouvernement garantisse ces dettes, là, qui sont monumentales et qui sont maintenant détenues par notre système bancaire, là.
Mais en même temps,
les gens, par ailleurs, vont devoir être un peu patients, là, parce que le gouvernement, on le voit, là, ça va trop vite, là, pour la vitesse, la machine de se mettre en œuvre. On est en train, vraiment, la priorité, c'est d'essayer de finir d'attacher les fils pour la subvention pour les salaires, dont on va avoir les détails finalement aujourd'hui en après-midi par le ministre Morneau, puis mettre en œuvre le système de l'allocation d'urgence de 2 000 $ là.
Écoute, c'est critiqué, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, coudonc, c'est comme si on encourage quasiment les gens à rester chez eux, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui n'ont même pas ça, 2 000 $ par mois.
Oui, non, mais c'est comme quand tu mets en place des programmes pour venir en aide au plus grand nombre de Canadiens possible, c'est sûr qu'il va y avoir des trous, là. Je pense que la perfection ne peut pas exister dans une gestion de crise de cette taille-là. Là. On a Monsieur Legault est en train, le gouvernement Legault est en train d'évaluer qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour combler le manque à gagner entre les personnes qui sont au salaire minimum et ce 2 000 $. La question se pose aussi à Ottawa, mais à un moment donné, un gouvernement doit... Tu sais, je pense qu'il faut comprendre, là, qu'un gouvernement doit prioriser. Là. La priorité, c'est que la majorité des gens aient de l'argent pour payer l'épicerie. Alors, après ça, on attache les fils imparfaits qui se manifestent. Et moi, je garde toujours en tête le message de l'OMS, là, même qui est très critiqué en ce moment, mais qui dit « agir vite ». Sans regret et s'ajuster en cours de route.
Ouais,
alors,
ouais,
le problème du manque à gagner pour le 2 000 $, c'est un peu ça. Là.
On va s'ajuster. Là, il fallait déposer.
En fait,
oui, il fallait faire ce plan d'aide-là, puis après ça, on va l'ajuster. Là. On va le tweaker, comme on dit. Là.
C'est ça, tu sais.
Écoute, Emmanuel, en terminant, un sujet très controversé quand même. Écoute, le rapatriement des Canadiens coincés à l'étranger. Il y en a qui sont pognés en Inde. Là. Je crois qu'un peu plus tôt, ici à Cube Radio, il y avait une entrevue avec quelqu'un qui était en Inde. Venez nous chercher, etc. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu faisais en Inde, un pays collé sur la Chine? Comment ça que tu es encore là? Comment ça fait que t'es pas revenu avant? Tu sais, il y a des gens qui blâment les Canadiens qui sont coincés à l'étranger.
Oui, je pense que si quelqu'un est dans un trek au Népal vers l'Himalaya puis qui a quitté Katmandou le 20 février, tu peux plus lui reprocher d'être déconnecté là quand tu voyages. T'sais, je pense qu'il y a plein de circonstances. C'est sûr qu'il y a des gens irresponsables, là. Mais il y a des gens, tu sais, l'ampleur, cette pandémie-là était quand même assez contenue jusqu'à la dernière semaine de février, là. Et donc, il y avait des Canadiens aux quatre coins du monde pour une foule de raisons, là. Ce que je reconnais, par ailleurs, c'est quand même, là, on est vite sur la gâchette à critiquer le gouvernement dans ces trucs-là, là.
Ben oui.
Mais c'est la vitesse à laquelle il essaie d'opérer, là. Je te donne juste la liste des vols qui s'en viennent dans les prochains jours. Il y a eu des vols de l'Espagne et du Koweït le 28 mars. Il y a des vols du Guatemala. Là, on est en train d'organiser des vols de l'Algérie, l'Équateur, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Hongrie, l'Éthiopie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Pérou, l'Algérie, la Pologne.
Ben voyons donc!
Il y a des vols le 4, 5, 6, 7 et le Pakistan le 2 avril. Et il y a continué à avoir des efforts parce qu'au Pérou, on a réussi à sortir le monde qui était à Lima. Puis là, il faut réussir à rapatrier des gens qui étaient à l'extérieur de Lima, les amener à Lima pour qu'ils puissent sortir.
Aïe aïe! Je ne savais pas que c'était d'une telle ampleur, c'est l'opération sauvetage.
Et en ce moment, il reste 393 523 Canadiens sont inscrits auprès des autorités canadiennes et qui ont besoin d'une forme d'aide consulaire. Mais dis-toi que jeudi dernier, il y en avait 425 000. Okay. Alors, le nombre baisse, là, mais juste imaginez l'ampleur de l'opération.
Hey, c'est une opération d'une ampleur incroyable. Affréter des avions, c'est hallucinant, c'est vertigineux. Vraiment.
Ouais, comme effort là, pour négocier que ces avions-là aient lieu, là, je pense qu'on peut donner, on leur casse beaucoup de sucre sur le dos à ces gens-là, mais les équipes consulaires en ce moment au gouvernement fédéral, là, ils travaillent littéralement 24 heures par jour.
Écoute, je veux t'entendre en terminant rapidement, là, Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, qui dit on est trop sévère envers Justin Trudeau.
Ben, moi, j'ai écrit là-dessus c'est drôle, dans ma chronique de la semaine dernière, là, je pense que M. Trudeau est M. Trudeau. Il n'est pas un bon communicateur. Il ne l'a jamais été. Okay? Alors, on ne peut pas lui demander d'être qui il n'est pas. Et le fait qu'il soit en confinement à la maison, inévitablement, a un effet, un impact sur son ton. Là. Parce que c'est juste moi, là, depuis lundi, je travaille dans mon appartement. Je trouve ça très difficile, même si à la salle de nouvelles à TVA, j'avais mon bureau fermé. Alors, souffre de cet isolement-là, quand tu n'es pas en contact physique avec les gens autour de toi. Je pense, moi, que ça a un impact sur son ton, le vrai, mais objectivement, là, est-ce que le gouvernement du Canada fait ce qu'il faut en ce moment?
Mmh. Oui, la machine est là. La machine est là.
La machine est là, les ministres opèrent, on livre, on s'ajuste, etc. Alors, c'est ça. Non, il n'est pas un bon communicateur. Il a l'air de réciter ses lignes, etc. Il a été trop lent sur la frontière, mais ceci étant dit, maintenant, là, on donne de l'argent aux gens, on subventionne les entreprises, on rapatrie des Canadiens à une vitesse vertigineuse, on commande des masques, on travaille avec les provinces. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là?
Effectivement. Non, mais c'est très bon de le dire aussi. Là. C'est facile de critiquer aussi, là, des backbenchers, mais c'est une crise d'une ampleur jamais vue. Et la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, là, qu'on dit les autorités. Là. Donc,
il est un messager isolé. Il y a un prix au fait qu'il soit déconnecté totalement du reste de son appareil gouvernemental, de son entourage, de tout ça. Et il n'est pas un bon communicateur. Maintenant, est-ce qu'on va... C'est lui qui compte ou c'est ce que fait son gouvernement?
Oui, tout à fait. Mais toi, tu es une bonne communicatrice. Merci beaucoup, Emmanuel.
C'est adorable. Salut, au revoir.
Merci, Emmanuel Latraverse. Puis on va bien sûr l'écouter à LCN. Merci.